Voilà, je démarre le chronomètre pour passer une heure avec Guillaume Lecointre. On va parler du vivant, on va parler du monde du vivant, des créatures qui nous entourent, la biodiversité dont on parle beaucoup en ce moment, pour le fait qu'elle est érodée par les activités humaines. Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler. On va voir comment on étudie cette biodiversité. Même si elle s'érode, elle est énorme. Il y a énormément d'espèces. Elle est très diverse. Énormément d'espèces qui nous entourent. Et comment est-ce qu'on étudie ça? Eh bien, on va voir ça rapidement avec Guillaume Lecointre. Alors, Guillaume Lecointre est directeur du département systématique et évolution. On va dire ce que veulent dire. On va expliquer ces termes du Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Il est conseiller auprès de son président du muséum et il est, je voudrais vous signaler, auteur d'un petit livre au pommier, aux éditions du pommier, qui est remarquable de clarté. Descendons-nous de Darwin, qui nous fait comprendre la compréhension actuelle que l'on a de la théorie de Darwin. Alors, systématique, vous êtes donc systématicien, Guillaume Lecointre. Qu'est-ce que ça veut dire en deux mots, systématicien ?
La systématique, c'est la science des systèmes classificatoires. Et si nous sommes là aujourd'hui, réunis, c'est en particulier sur le thème de classer le réel, effectivement, puisque le réel, c'est le thème de ces journées, et ce réel, il change tout le temps, en tout cas le scientifique admet, vit tranquillement avec l'idée que le réel change tout le temps. La montagne s'érode, la rivière, c'est jamais deux fois la même eau dans la rivière. Et puis même nous changeons. Hein. Nous nous croyons constants, mais en fait, chacun sait que tout est une question d'échelle. Hein. Nous changeons aussi. Alors tout change et pourtant, nous avons besoin de faire des mots stables. Sinon, on ne pourrait pas parler de ce qui change tout le temps. Classer le réel, c'est le but de cette science qu'on appelle la systématique, c'est-à-dire la science des classifications, la science des systèmes classificatoires. Quelle boîte allons-nous mettre dans notre tête, avec des noms collés dessus, pour arriver à parler de quelque chose qui nous échappe toujours? Parce que si vous vouliez être absolument fidèle à chaque étape de changement de ce que vous regardiez, une molécule qui change, une espèce qui change, un verre d'eau qui s'évapore, peu importe, tout ce qui fait partie du monde réel, enfin tout ce que les sciences appréhendent dans le monde réel est changeant. Si on voulait être fidèle au changement, on ne pourrait rien nommer. Et ça, c'est une difficulté qu'on a depuis l'Antiquité gréco-latine. Si vous voulez être fidèle au changement, vous donnez un prénom à chaque mouche, à chaque brin d'herbe, vous donnez un prénom à chaque bactérie, et même, descendons plus loin, vous donnez un prénom à chaque atome, parce que les atomes changent. Rappelez-vous que les atomes perdent des électrons, ça fait des ions. Hein. Les noyaux des atomes sont susceptibles de changer aussi, ça fait des isotopes. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par définition, la matière change. Or, pour parler de ce qui existe, vous avez besoin d'un peu de stabilité. Parce que donner un prénom à chaque mouche, ça ne me permet pas de décrire la diversité du vivant, par exemple. Donner un prénom à chaque atome, ça ne me permet pas de comprendre comment le monde se constitue physiquement. Et donc, vous avez besoin dans vos têtes de catégories mentales. Et ces catégories mentales, c'est nous qui les faisons. Et juste pour donner un exemple, et on passera à la question suivante, il faut savoir, quand on est scientifique, distinguer, quand on regarde le réel, le contenant et le contenu. Le contenant, c'est ce dont on a besoin que ce soit stable pour arriver à se comprendre. Le contenu, lui, il change. Linné, un grand classificateur du XVIIIe siècle, Linné, L-I-2-N-E, ce fameux botaniste suédois qui a fait une partie de notre nomenclature pour nommer les espèces, eh bien Linné avait créé, dans sa classification du vivant, il avait créé les pachydermes. Alors rappelez-vous, les pachydermes, ça veut dire peau épaisse. Hein, les pachydermes, c'est ceux qui ont la peau épaisse, éléphants, hippopotames, rhinocéros. Linné avait fait la catégorie des pachydermes en regardant les animaux. Et figurez-vous que les pachydermes ont totalement disparu de la zoologie actuelle. On ne parle plus de pachydermes aujourd'hui. Alors, on ne parle plus de la catégorie pachyderme, mais vous vous doutez bien que les éléphants, les rhinocéros et les hippopotames n'ont pas disparu. pour autant. Donc ça veut dire, le classificateur est entraîné à se dire, l'existence matérielle du contenu ne dépend pas de la validité du contenant. En tout cas, aux échelles auxquelles on travaille quand on est en zoologie, en botanique, mais même en minéralogie, hein, même en sciences humaines et sociales, même en économie, même en sociologie, la réalité matérielle du contenu ne dépend pas de la validité du contenant. C'est-à-dire que les contenants, c'est nous qui les faisons, en fait. Donc, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on ne parle plus de pachyderme que les éléphants ont disparu. Les éléphants, ils sont dans une autre boîte. Ils sont proches des lamantins et des dugongs. Les rhinocéros sont proches des chevaux. Et puis les hippopotames sont proches des baleines. Ben voilà, il y a plus de la boîte des pachydermes a explosé dans la classification.
Alors, il y a quand même quelque chose qui me semble paradoxal. C'est comment est-ce qu'on peut mettre dans des boîtes des choses qui évoluent ? Est-ce que les boîtes elles-mêmes évoluent aussi ? Et comment est-ce qu'on peut figer quelque chose qui évolue, comment ça paraît réducteur finalement de définir des boîtes, des catégories, de mettre des noms qui semblent pour toujours les mêmes. Comment est-ce qu'on sort de ce paradoxe-là ?
Le contenu de la boîte change, ça il faut qu'on vive tranquillement avec ça. Ça n'a pas toujours été simple. Hein. Ce paradoxe, on s'est pris les pieds dans le tapis bien des fois. Linné, par exemple, le même Linné de celui dont je parlais tout à l'heure. Pour lui, c'était facile de faire des boîtes, parce que pour lui, le monde était fixe. En fait, il négligeait le changement. Et donc, le besoin de stabilité du langage, il le transposait dans la nature. Le créateur avait fait les espèces en une seule fois le jour de la création. Les espèces ne changent pas. C'était ce qu'on appelle à l'époque le fixisme. À l'époque de Linné, les gens étaient fixistes. La nature ne bougeait pas. Les chats font des chats, les chiens font des chiens. Les vaches font des vaches, et voilà, le monde est figé. Et en négligeant le changement, ou du moins en... Il le détectait, le changement, la variation. Il voyait bien que tous les chats ne se ressemblaient pas complètement, bien sûr. Mais cette variation, il la tenait pour une corruption, pour quelque chose de négligeable. Et donc, pour Linné, il y a une linéarité totale entre le besoin de stabilité du langage et la stabilité de la nature. Il considérait la nature comme stable. Alors qu'aujourd'hui, l'exercice est moins simple. Et c'est, je pense que c'est le fond de votre question. Aujourd'hui, le jeu est moins simple parce qu'en fait, nous savons très bien que les lignages généalogiques ne sont pas stables. Ce qu'on appelle une espèce, c'est une boîte dans notre tête, en fait. Ce qu'on appelle une espèce, quand vous regardez le monde d'aujourd'hui, vous avez l'impression que les espèces sont réelles. Les girafes font des girafes, les éléphants font des éléphants, les chats font des chats, les chiens font des chiens... Quoi de plus naturel, les espèces sont réelles. Mais, entre-temps, est passé ce brave Charles Darwin, qui nous explique que les espèces sont affiliées entre elles. C'est-à-dire que la régularité du monde vivant vient en partie d'une longue généalogie, et que si les chats et les chiens sont bien distingués aujourd'hui, on sait bien qu'ils ne font pas de petits ensemble, ça nous a l'air bien séparés, mais si vous vous donnez la profondeur du temps, si vous rentrez dans un cadre théorique général de la biologie qui est les lignages généalogiques du vivant changent au cours du temps, ils sont reliés entre eux quand on recule dans le passé. C'est comme si votre voisin de palier, vous faites une généalogie là à la mairie, puis vous découvrez que votre voisin de palier, à un certain degré dans le passé, finalement, c'est votre arrière-arrière-arrière-arrière-cousin, quoi. Et donc, en fait, en se donnant la profondeur du passé, il y a un moment où ce que vous appelez chat est de moins en moins chat. Et puis, finalement, c'est plus un chat. Et puis, c'est même plus, d'ailleurs, non plus complètement un chien. Et du coup, en vous donnant la profondeur du temps, vous vous apercevez que ce qui nous paraît évident aujourd'hui comme catégorie, dans le lignage généalogique qui se rejoint en reculant dans le passé, je répète, en fait, cette catégorie, il y a un moment où il va falloir arrêter d'appeler chat et arrêter d'appeler ça chien. Et donc, le caractère conventionnel de l'espèce ne vous apparaît que si vous vous donnez un cadre théorique, c'est-à-dire la profondeur du temps dans lequel on va regarder le vivant. Et ça, c'est une difficulté qui a mis longtemps à émerger. Effectivement, les catégories ont besoin d'être stables parce qu'elles sont faites pour communiquer. Ce n'est pas pour le plaisir de ranger. Après tout, si, parce que moi, j'aime bien. Hein, mais c'est surtout la nécessité que nous avons de parler de la nature d'une manière générale. Je répète, s'il faut donner un prénom à chaque atome, on ne peut pas expliquer la nature. Donc, il faut arriver à produire des catégories d'ordre général. Le tout est de savoir de quoi elles parlent, ces catégories. Alors oui, effectivement, le monde change. Nos catégories aujourd'hui sont humbles. Avec Charles Darwin, la catégorisation devient humble. C'est-à-dire, Nous savons que les catégories que nous fabriquons sont des conventions de langage posées sur des hypothèses de filiation des individus. Quand je dis filiation, ça veut dire que les individus sont affiliés entre eux. L'hypothèse, c'est que celui-ci, celui-là et celui-là sont plus affiliés entre eux qu'ils ne le sont d'un autre qui est par là-bas. Eh bien, cette hypothèse de filiation, je vais poser une catégorie dessus, je vais appeler ça mammifère, ou je vais appeler ça oiseau, ou je ne sais quoi encore. Et même chose pour les espèces. Les espèces sont des hypothèses posées sur des hypothèses de filiation. Donc, avec l'inné, le langage traduit directement la réalité, la stabilité du langage traduit directement la réalité. Avec Darwin, la stabilité du langage ne tient qu'à nous, à notre besoin de communication. La réalité, on la laisse tranquille, elle n'est pas obligée d'être figée, elle change comme elle veut, et c'est à nous de décider quelles sont les propriétés par lesquelles qu'on va arriver à parler de cette réalité qui change.
Alors justement, comment on les choisit, ces propriétés ? Sur quels critères on va dire tel animal ou tel être vivant, je vais le mettre dans telle ou telle catégorie, les fameuses boîtes ?
Oui, ça c'est la question du cahier des charges. Avant d'y répondre, j'ai oublié de répondre à l'une des questions que vous posiez juste précédemment. On a besoin que nos mots soient stables, mais n'oubliez pas que la systématique est une science, c'est-à-dire que si elle est claire sur les propriétés par lesquelles elle classe, ce dont on va parler tout à l'heure, si elle est claire sur ce qu'elle veut faire, alors elle-même, elle va être susceptible de produire des avancées, des résultats nouveaux. Et donc, l'autre aspect de ma réponse, c'est oui, les classifications changent. En fait, elles n'ont pas pour vocation de vous donner des catégories, de vous proposer des catégories mentales à jamais vraies, à jamais exactes dans ce qu'elles tentent de refléter. Mais attendez-vous à ce que les classifications changent, car elles font des progrès. Et ça, c'est très difficile pour nous. Ça, c'est vraiment une difficulté. Parce que catégoriser, je répète, c'est un besoin, c'est un repère psychique. Ça, les catégories, c'est ce qui font nos repères psychiques, qui font qu'on prend des décisions dans le monde réel. Ça nous permet de communiquer. Et si je vous change les catégories, vous allez vite être perdu. Il n'y a rien de plus déstabilisant que de changer une classification. Et pourtant, en zoologie, en botanique, en minéralogie, en sciences humaines et sociales, enfin dans beaucoup de sciences, les catégories changent parce que les connaissances progressent. Donc, loin de moi l'idée de vous dire une catégorie doit rester, elle a pour contrat de rester inchangée. Non, au contraire, il s'agit de science, donc effectivement, c'est susceptible de changer. Exemple. Alors, un exemple de truc qui a changé. Alors là, je vais horrifier tout le monde. Mais en zoologie, on ne parle plus de poisson. Poisson, c'est un terme culinaire. C'est un terme qu'on trouve chez le poissonnier. C'est l'ensemble des vertébrés qu'on pêche avec une canne à pêche ou un filet. Et puis, quand ils se mangent, ils ont un certain goût, quoi. On ne choisit pas n'importe quel vin avec un poisson. On ne choisit pas n'importe quel vin avec une viande. Si vous regardez le poisson, on appelle poisson sous l'angle zoologique aujourd'hui, eh bien, poisson... n'existe plus, car le cahier, cette boîte, dans ma tête, elle vient de l'inné, une époque où on ne pensait pas d'évolution. On ne pensait pas évolution à l'époque de l'inné, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc, poisson ne peut pas refléter l'évolution. Alors là, justement, on en vient à la question du cahier des charges. Et là, maintenant, je réponds à la deuxième question. Quelles sont les intentions qui se cachent derrière le classificateur ? Quels sont les critères que le classificateur va utiliser ? Eh bien, aujourd'hui, depuis 150 ans, depuis le 13e chapitre de la première édition de l'Origine des espèces de Charles Darwin, eh bien, le cahier des charges est posé. Qu'est-ce que j'appelle un cahier des charges ? C'est-à-dire, de quoi doivent parler nos classifications ? Elles peuvent parler de 1000 choses. Je peux vous faire une classification par la couleur, par la taille, par si ça se mange ou pas. Je peux choisir de les mettre par habitat. Ils habitent la campagne, ils habitent la ville, ils habitent tel continent. Vous avez 1000 décisions possibles sur la façon de faire des catégories. Il faut qu'on s'entende entre nous, donc il faut qu'on ait un accord conventionnel. Et là, je précise, c'est une convention. Toute classification est conventionnelle. À la limite, on va même voter. De quoi doivent parler nos classifications ? Quelle est la propriété du monde réel là-dehors qui fait le plus de sens s'agissant de la biologie ? Mais une autre, quelle est celle qui fait le plus de sens s'agissant de la minéralogie, classer des minéraux ? Quelle est celle qui fait le plus de sens s'agissant de la sociologie ? Ça ne sera pas les mêmes cahiers des charges, nécessairement. En tout cas, en zoologie, en botanique, en paléontologie, quand on classe le vivant, Eh bien, le cahier des charges, il est inscrit au chapitre 13 de l'origine des espèces. On va classer les êtres vivants qui sont affiliés entre eux. Ce n'est pas ce qu'ils font, ce n'est pas là où ils habitent, ce n'est pas si je les mange ou pas, ou s'ils sont toxiques ou comestibles, enfin peu importe. Non, c'est une propriété particulière qui est la filiation. On va mettre ensemble des êtres vivants qui sont apparentés entre eux, plus apparentés entre eux que celui qui est à côté et qui le serait moins. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un cahier des charges. C'est le critère. Alors comment est-ce qu'on sait qu'ils sont apparentés ? Parce que c'est ça la question. Après tout, Charles Darwin le dit, en 1859, il le dit, il n'y a pas de registre d'état civil pour les espèces. Il n'y a pas de mairie qui enregistre la succession des ancêtres. Et donc, on va attraper la filiation à travers ce que les êtres vivants ont, et non pas ce qu'ils font, et non pas là où ils habitent. Parce que ce qu'ils font, voler, marcher, manger de la viande, là où ils habitent, la rivière, tel continent, bah, ça, c'est très labile, c'est très fluide, ça change tout le temps. Les êtres vivants, si vous les attrapez par ce qu'ils font, vous n'aurez pas l'image de ce qu'ils ont, et si vous les attrapez par ce qu'ils ont, vous n'aurez pas l'image de ce qu'ils font. Imaginez une mouche vole. Un pigeon vole. Bah, si vous regardez les organes avec lesquels le pigeon et la mouche respectivement volent, ces organes ne sont même pas comparables à l'échelle de votre œil. Si vous voulez trouver un élément de comparaison entre une aile de mouche et une aile de pigeon, il faut descendre au niveau de la cellule. Mais à un niveau d'organisation plus grand que celui de la cellule, vous ne pouvez pas, juste pas comparer une aile de mouche et une aile de pigeon. Donc on ne va pas classer sur ce qu'ils font, mais on va classer sur ce qu'ils ont, car c'est ce qui est le plus stable. Enfin, pense-t-on, en tout cas. C'est un pari, hein. C'est un pari. Si on veut attraper la filiation, eh bien, on va essayer d'attraper ce qu'ils ont, c'est-à-dire ce dont ils ont hérité de leurs ancêtres, en fait. Et c'est ça le pari de Darwin. C'est si vous classez sur ce que les êtres vivants ont, leurs attributs, ce qu'ils portent sur eux, que ce soit la forme ou que ce soit les gènes, que ce soit... Darwin ne connaissait pas les gènes, hein, mais ça, c'est la science d'aujourd'hui. La forme, les gènes, peu importe, ce qu'ils ont, eh bien, vous avez des chances d'attraper, d'avoir un reflet de la filiation. Et donc, une fois qu'on a la filiation, on fait des boîtes dessus.
Donc, finalement, avant de faire des boîtes, avant de classer comme le collectionneur de timbres, vous faites des arbres généalogiques.
C'est ça. C'est-à-dire que, alors ça, c'est la version moderne. Depuis une cinquantaine d'années, on arrive à faire d'abord des arbres généalogiques. Et ensuite, une fois qu'on a l'arbre, eh bien, on prend des branches cohérentes et on fait des catégories dessus. Ça n'a pas toujours été ça, hein. Ceux qui sont plus vieux que moi dans la salle ont eu à l'école une école de pensée de la classification où on prenait les boîtes faites par l'inné, donc des boîtes, des catégories qui étaient faites sur la nature, alors qu'à l'époque on ne pensait même pas à évolution, et ensuite on cherchait les degrés de filiation entre les boîtes déjà faites. Et ça, cet exercice-là, ça consiste à confondre le contenant et le contenu. Car les boîtes n'évoluent pas. Les boîtes, c'est nous qui les faisons. Les oiseaux ne descendent pas des dinosaures. Les oiseaux sont des dinosaures. C'est-à-dire que la relation d'ancêtre à descendant, c'est une relation qui intéresse le contenu. La relation d'emboîtement, d'inclusion, c'est une relation qui concerne le contenant. Et donc, ça n'est pas une question de fait, c'est une question de géométrie mentale. Si il y a une filiation de ce qu'on appelle des oiseaux à l'intérieur de la filiation de ce qu'on appelait jadis les dinosaures, alors les oiseaux sont des dinosaures. Ils emportent l'ancestralité. Ils emportent même les caractères anatomiques. On regarde un bassin d'oiseaux, bah c'est un bassin de dinosaures, en fait. Les oiseaux continuent à être des dinosaures. Alors ça, c'est pas un scoop. Vous le savez maintenant, si vous ouvrez les livres de paléontologie, vous trouvez des dinosaures théropodes, ceux qui marchent sur leurs trois doigts, là, qui sont bipèdes, carnivores la plupart du temps. Ces dinosaures théropodes, on en a découvert à 9 mètres de long, ils portent des plumes. Hein. La plume est apparue bien avant qu'elle ne serve à voler chez les oiseaux, hein, au sein des dinosaures, je veux dire. Donc j'illustre juste le fait que les contenants descendent des uns des autres. Non, je dis une bêtise, pardon. Excusez-moi. Le contenu, les contenus descendent des uns des autres et les contenants, eux, produits par nous, s'emboîtent les uns dans les autres. Donc la relation d'emboîtement, c'est une relation des contenants, du langage, et la relation de descendance, c'est une relation du contenu. Pour ceux qui sont plus vieux que moi dans la salle, vous avez reçu à l'école une systématique où on confondait, il y avait une confusion sur ce rapport. Et on cherchait des relations d'ancêtres à descendants entre des boîtes. Mais c'est absurde. Les boîtes, c'est nous qui les faisons. Donc, quand on dit les oiseaux descendent des reptiles, c'est déjà rien que cette phrase, elle est conceptuellement fausse. Les oiseaux sont des reptiles. Les reptiles descendent des amphibiens. Les reptiles sont des amphibiens au sens large. Bon, voilà. Alors, la raison pour terminer pour laquelle il n'y a plus de poissons dans la classification, eh bien, sachez que certains poissons sont plus apparentés à vous qu'ils ne le sont d'autres poissons. Un exemple tout de suite, la truite. Tiens, j'ai mangé du saumon ce midi. Un saumon, tout bête, eh bien, il est plus apparenté, il est plus affilié à vous qu'il ne l'est d'un requin. Vous partagez. Alors, comment le sait-on ? Ben, on le sait parce qu'ils ont. Alors, vous et le saumon, ben, vous avez le prémaxillaire, le maxillaire, le dentaire, le pariétal, le frontal, l'occipital, tous ces os du crâne, on les partage avec les poissons osseux. Et les requins, eux, ben, sont organisés autrement. C'est pas du tout ça. Donc une truite est plus apparentée à vous qu'elle ne l'est d'un requin. Mais si on veut continuer sur l'hétérogénéité des poissons, alors un poisson moins connu, le sélacanthe, pour ceux qui connaîtraient le sélacanthe, ce fameux animal qui a justement un humérus et un fémur, mais qui néanmoins vit en mer, en grande profondeur, il est plus apparenté à vous qu'il ne l'est d'un saumon. Il a avec vous, je l'ai dit, l'humérus, le fémur, des poumons... des poumons qui lui servent de sac de graisse, mais enfin, c'est vraiment l'équivalent anatomique de nos poumons, et autres caractères que je ne vais pas citer, mais les poissons, le concept de poisson n'a rien à voir avec l'apparentement. Donc, ça vous change la classification. Alors, les mots sont remplacés par d'autres. Nous avons publié, avec Hervé Le Guyader, la classification phylogénétique du vivant chez Belin pour offrir au public... Quelle était la nouvelle classification zoologique et botanique et paléontologique validée aujourd'hui ? Comment dire ? Quand je dis aujourd'hui, ça ne date pas de la semaine dernière, ce dont je parle là. Disons que le cahier des charges a été fixé par Charles Darwin, mais on y arrive véritablement à classer ce réel vivant, en fait. On y arrive véritablement selon ce cahier des charges-là que depuis une cinquantaine d'années seulement.
Et alors, maintenant qu'on a la méthode, on a le cahier des charges, est-ce que ça nous permet de reconstituer une histoire évolutive ? Michel Serres dirait le grand récit du vivant, ou ne serait-ce que des parties de cette évolution. Est-ce qu'on peut, du coup, retracer une histoire ?
Oui, alors c'est fait pour ça, j'ai même envie de dire. Parce que tout à l'heure, on a dit... Ce qui était bizarre dans le passé, c'est qu'on avait déjà les boîtes et ensuite on cherchait la filiation entre les boîtes. Ça, c'était une méthode erronée. On le sait aujourd'hui. Il y a 40 ans à peu près, la méthode arrive, ça bascule, on cherche d'abord la filiation et ensuite on fait les boîtes. Donc on a inversé totalement le rapport à la catégorie, justement, le rapport à la classification. Mais une fois qu'on a la généalogie, ça serait bête de s'arrêter là. Certes, cette... généalogie, alors je mets des guillemets à généalogie parce que si on veut être rigoureux, si on veut être puriste, et pour ceux qui connaîtraient le mot, en vérité ce sont des phylogénies, c'est-à-dire des figures d'arbres qui vous donnent l'ordre d'apparition des lignages. La généalogie, c'est plus compliqué parce que quand vous dites généalogie, vous supposez que vous avez identifié à titre individuel l'ancêtre. Alors ça c'est vrai pour la généalogie de nos familles, quand on a accès au registre d'état civil des mairies, on y arrive. Mais nous, les naturalistes, on n'y arrive pas. On n'a pas. D'ailleurs, Darwin le disait lui-même, il n'y a pas de registre, il n'y a pas de mairie pour enregistrer l'identité des ancêtres. Donc, vous passez de la généalogie à la phylogénie au moment où les ancêtres vous sont inaccessibles. Ça peut paraître bizarre, mais le mot phylogénie, aujourd'hui, est employé dans le sens de « je vais reconstruire un arbre de filiation, un arbre qui n'est pas généalogique parce que je n'ai pas les ancêtres, mais dans lequel les ancêtres seront des portraits robots ». Donc ce sont des ancêtres virtuels, ce sont des hypothèses d'ancêtres en fait. Et la phylogénie, c'est ça, c'est la filiation par les hypothèses d'ancêtres. Eh bien, ces phylogénies que l'on construit, elles servent à faire des classifications, mais pas seulement, elles servent aussi à raconter l'histoire du vivant, c'est vrai, puisque nous avons, dans ces arbres, jalonné les branches d'événements, d'apparitions, de ce que les êtres vivants ont, ce qu'on appelle les attributs. ce qu'ils ont de nouveau. Sur telle branche, qu'est-ce qui apparaît de nouveau? Alors, donnons un exemple tout de suite. Ben, je ne sais pas, moi, prenons les mammifères, tiens. Dans l'arbre, il y a une branche, il y a un segment de tronc qui se déploie ensuite. Mais sur ce segment-là, à l'origine de tous les mammifères, ben, on a l'apparition d'un seul os dans la mandibule, qui est l'os dentaire. Si vous regardez des mandibules d'oiseaux ou des mandibules de tortues, c'est constitué de plusieurs os, hein, la mandibule. Mais pas chez les mammifères, il n'y a plus qu'un seul os, c'est l'os dentaire. Il n'y a pas que ça, il y a le pavillon aux oreilles. Ça, c'est un caractère de mammifère. Vous êtes des mammifères parce que vous avez le pavillon aux oreilles. Il y a les poils. Il y a les mamelles, alors pas chez moi, mais chez vous. Au moins, j'ai le téton, ça va. Ça reste un caractère de mammifère aussi. Et puis, parmi les mammifères, bah, il y a une autre boîte qu'on appelle primate. Et puis, primate, bah, on jalonne l'apparition d'un autre organe, mais plus tard. Donc, le début de l'histoire arrive, c'est que on arrive à dater nos arbres. Les caractères que j'ai cités là, la mandibule, le pavillon de l'oreille, ça remonte déjà à plus de 200 millions d'années. Et puis l'apparition de ce pouce opposable avec lequel vous faites de l'autostop, bah c'est apparu il y a seulement 65 millions d'années. Donc on a une mise en ordre dans l'arbre d'une série d'organes qui apparaissent. Et votre corps vous apparaît comme un corps historique. Vous avez d'abord eu une mandibule faite d'un seul os, avant d'avoir un pouce opposable. Alors à l'époque où il est apparu, il servait à attraper les branches, hein. Bon, aujourd'hui, on n'attrape plus les branches tellement, mais on a gardé ce caractère et on s'en sert.
On fait des textos.
Et voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle, mais ça porte un nom, c'est l'exaptation. En biologie, qu'est-ce que c'est que l'exaptation? C'est la mobilisation d'un organe dans une fonction qui n'était pas sa fonction d'origine. Typiquement, la plume, c'est ça. La plume a servi à voler bien après que la plume soit apparue. Alors après, on peut rentrer dans le détail de quelle plume on parle. Bon, je ne rentre pas dans les détails techniques. Mais ça, typiquement, ce pouce opposable, quand on fait de l'autostop, c'est d'exaptation. Il y a un recrutement d'un organe qui est déjà là dans une fonction qui n'était pas celle de son origine. Donc oui, on raconte une histoire du vivant. Parce que finalement, je peux dater, moi, le phylogénéticien, c'est mon métier, je peux dater l'apparition de chacun de vos organes. Votre colonne vertébrale, moins 500 millions d'années. Votre humérus et votre fémur, moins 400 millions d'années à peu près. Et puis on peut continuer, votre mandibule faite d'un seul os, moins 200 millions d'années, votre pouce opposable, moins 65 millions d'années, votre nez là, la truffe qui est remplacée par ce qu'on appelle un nez, bah, ça c'est 40 millions d'années, et puis la queue qui est perdue au profit d'un coccyx, le coccyx à l'arrière du bassin c'est moins 25 millions d'années, votre stature érigée c'est un peu plus tard, c'est de l'ordre de à peu près 4 ou 5 millions d'années. Et puis, on peut continuer. Hein. Votre encéphale qui a grossi jusqu'à atteindre 1400 cm3 chez l'adulte, bah ça, c'est moins 1 million d'années à peu près. Langage articulé, un peu plus récent encore. Enfin, voilà, on peut jalonner l'histoire, votre histoire, mais on peut le faire pas seulement sur l'homme, on peut le faire chez n'importe quel organisme. Hein. On prend un escargot et on peut dater dans ces arbres l'apparition de la coquille, l'apparition des tentacules, etc.
Est-ce qu'avec cette nouvelle méthode qu'on a mis en place depuis 50 années à peu près, 50 ans, 60 ans?
Oui, enfin disons qu'elle est vraiment opérationnelle dans la communauté des naturalistes. Je ne vais pas faire de faute de calcul. Ça fonctionne vraiment bien depuis 40 ans à peu près. Ouais.
D'accord, mais avant, on avait déjà des récits de l'évolution.
Tout à fait, oui.
Est-ce qu'on a débusqué de faux récits et des erreurs de récits?
Oui, absolument, parce que ça, c'est une question importante. Ça vous montre à quel point nos catégories influent sur les récits qu'on raconte sur le réel. Tout à fait. Quand on avait des relations d'ancêtres à descendants entre les classes linéennes, eh bien, il nous fallait des chaînons manquants entre les classes. Parce que les classes étaient tenues comme premières. Donc, si vous avez un trou entre deux classes, et entre nous, c'est normal qu'il y en ait, parce que l'inné, il ne pensait pas à évolution, eh bien, on allait chercher un chaînon manquant, mais qui, finalement, s'avère être ce qu'on appelle en science un artefact, c'est-à-dire quelque chose qui est... C'est une erreur conceptuelle, en fait. Si vous faites l'arbre d'apparentement d'abord et que vous avez le jalonnement des apparitions d'organes et que vous faites des boîtes ensuite dessus, il n'y a plus de chaînon manquant. C'est parce qu'on avait inversé notre rapport entre la boîte et le réel qu'il manquait des chaînons. Mais si vous remettez les choses dans le bon ordre, si on fait de la science dans le nominalisme de Darwin, ça porte un nom, ça. Le nominalisme, c'est cette posture théorique qui dit que les catégories sont faites par nous, les noms que nous posons dessus sont conventionnels, et que le réel, lui, il change. Dans le réel, il n'y a que des individus. Les catégories ne sont pas dans le réel. Dans le réel, il y a des individus. Ils existent. Hein. Attention, je ne dis pas que l'existence des individus dépend de la catégorie que vous en faites. Alors attention, ce n'est pas ça. Hein. On ne subordonne pas l'existence du contenu à la validité du contenant. On est bien d'accord. Ça n'est pas du relativisme. Hein. Les individus existent. Mais quand vous faites des ensembles d'individus, c'est vous qui prenez des décisions sur les critères par lesquels vous allez mettre ces individus ensemble. Eh bien, lorsqu'on a remis le rapport dans le bon sens, on s'est aperçu qu'il y a eu, dans l'école d'avant, dans l'ancienne école, des abus de récits. Alors, il y a eu un moment, dans les programmes scolaires français, il y avait un grand thème qui s'appelait la sortie des eaux. Et en terminale, on apprenait ça. Peut-être que dans la salle, vous avez entendu parler de ça en terminale. Il y avait un petit peu d'évolution à la fin de l'année. Malheureusement, l'évolution, ça me permet de faire un aparté, hein, l'évolution qui est le cadre théorique aujourd'hui de toute la biologie, de toute la paléontologie et de toute l'anthropologie. Dans l'enseignement français, elle a longtemps été reportée en fin de programme de terminale. Et comme vous le savez, en sciences de la Terre et de la vie, l'année de terminale, il faut finir le programme. Il y a le bac, il faut aller vite. Et puis au mois de juin, on fait l'évolution. Enfin, excusez-moi, je suis un peu caricatural là, mais souvent, il apparaît que l'évolution est faite par-dessus la jambe parce qu'on n'a plus le temps, quoi. Or... Et rien ne fait de sens, enfin je vais répéter Dobzhansky, rien ne fait de sens en biologie si ce n'est la lumière de l'évolution. On devrait commencer par enseigner l'évolution. On devrait commencer par enseigner l'instabilité foncière de la matière, y compris de la matière biologique. Et faire comprendre ensuite que la régularité que nous arrivons à poser dans le discours scientifique sur le réel, cette régularité, c'est une nécessité langagière. Elle n'est pas inscrite dans la nature. Notre œil, il est tout le temps surentraîné à repérer les régularités parce que les irrégularités nous angoissent. Un monde qui ne serait fait que de surprises serait un monde terrible pour nous parce que nous ne pourrions pas prendre de décisions. Nous ne pourrions pas orienter notre vie. Nous, notre cerveau, il est déjà câblé pour nous rassurer avec ce qui est régulier et finalement penser que ce qui est régulier est une partie intrinsèque de la réalité. Pourquoi est-ce que Darwin est embêtant? Pourquoi il est angoissant? C'est que Darwin vous dit, mais dans la nature, il n'y a que des individus, ils n'arrêtent pas de varier. Il n'y a pas deux personnes dans cette salle qui ont le même visage. C'est déjà un postulat darwinien. Enfin, ce n'est pas le postulat, c'est le reflet dans le réel de ce que Darwin conçoit. Et puis cette nature-là, elle n'est pas bien faite. Il y a des gens dans cette salle qui portent des lunettes. Ça veut dire que le rayon de courbure du cristallin, ce n'est pas toujours la valeur qu'il faut pour que les rayons lumineux convergent vers la rétine. Il y a de la variation. Et puis il y en a qui courent vite et il y en a qui ne courent pas vite. Enfin bref, je ne vais pas vous faire la liste, mais la variation, elle est partout en fait. Comment est-ce que nous arrivons à poser, nous, des segments de régularité qui nous rassurent, oui, c'est sûr, mais surtout qui nous permettent de parler sur un monde qui change tout le temps. Ça, c'est le nominalisme, ça. Alors, le déficit de nominalisme qu'on a eu au XXe siècle, même si la théorie de l'évolution était acceptée à l'époque, a produit des abus de récit, comme la sortie des eaux, par exemple, où il a fallu trouver des chaînons manquants entre des classes qui étaient conçues comme premières. Mais l'erreur fondamentale, c'est d'avoir conçu ces classes comme premières. Ce qui est premier, ce sont les individus, c'est nous qui faisons les classes, en fait. Et donc, on a cherché la sortie des eaux, et puis on a produit un récit biologique sous forme de mythe. Parce que quand on a travaillé selon l'autre école, avec de nouveaux fossiles aussi, il faut bien le dire, hein, eh bien on a découvert qu'il n'y a pas la sortie des eaux, que l'eau, finalement, ça va, ça vient, quoi. L'eau, elle se retire. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de la sortie des eaux? Là, comme s'il n'y en avait qu'une. Déjà, alors vous vous doutez bien que c'est la nôtre. Hein. C'est l'événement, un événement qui se passe à la fin du Dévonien, c'est-à-dire il y a 370-380 millions d'années. Les vertébrés accèdent à la terre ferme. Pourquoi est-ce qu'on pointe cet événement-là? Parce que on bat le poitrail, ça nous rassure. C'est le récit de notre lignée. Vous voyez, avant, ils vivaient dans l'eau, c'était des imbéciles. Et puis là, tout à coup, ils sont à l'air libre. Et un ichtyologiste, un zoologiste des poissons américain, Gareth Nelson, à New York, avait écrit dans un papier en 1969 « Si les poissons téléostéens, c'est-à-dire les poissons modernes, les maquereaux, les truites, les tanches, si les poissons téléostéens avaient écrit le récit de la vie, eh bien, ils auraient décrit les tétrapodes, c'est-à-dire les vertébrés à pattes, comme un cul-de-sac évolutif cul-de-sac évolutif, parce que la notion de cul-de-sac évolutif était un motif intellectuel de l'école du XXe siècle. Il y avait des cul-de-sac évolutifs. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc? Dès le début, la lignée, elle est mortonnée. Ça veut dire quoi, ça? Les téléostéens auraient classé les tétrapodes comme cul-de-sac évolutifs parce qu'ils sont sortis faire je sais pas quoi, là dehors, alors que la vie, elle est là dans l'eau, quoi. Donc je suis en train de vous dire simplement que la sortie des eaux, c'est un abus de récit du fait que nous avons besoin d'héroïser notre lignage qui, lui, vit hors de l'eau. Mais plus de la moitié des vertébrés existants vivent dans l'eau. Savez-vous simplement que sur 52 000 espèces de vertébrés connues et recensées, nous avons 31 000 espèces de téléostéens. Plus de la moitié des vertébrés connus sont dans la flotte. Ça, on l'oublie en général. On se focalise sur les mammifères qui ne représentent pas 0,001% de la biodiversité. Il y a à la surface du monde, là, recensée, à peu près 5 000 espèces de mammifères. On est à 10 503 espèces d'oiseaux. Il y a deux fois plus d'oiseaux, il y a deux fois plus de dinosaures dans la faune actuelle qu'il n'y a de mammifères. Si vous remettez les boîtes à leur place, aujourd'hui, il existe plus de dinosaures qu'il existe de mammifères. L'ère des dinosaures, c'est encore aujourd'hui. Ça inverse totalement le discours que vous avez reçu à l'école. Les dinosaures n'ont pas disparu, si vous avez bien compris ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Donc ça change, mais vous voyez que les catégories changent complètement le récit que vous allez faire sur le vivant. Et donc la sortie des eaux, c'était un abus. La sortie, alors quand vous regardez un petit peu ce qui se passe au Dévonien grâce à la paléontologie, vous vous apercevez qu'au moment où les vertébrés accèdent à la terre ferme, il y avait déjà sur la terre ferme, on a des traces fossiles d'annélides, de mollusques, de champignons, de plantes érigées. Alors évidemment, les bactéries sont déjà là aussi. Et donc les tétrapodes arrivent, les premiers animaux capables de se mouvoir sur la terre ferme vertébrés, arrivent, il y a déjà plein de monde, et ils y trouvent de la nourriture, d'ailleurs. Sortie, mais c'est biblique comme récit. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire dehors? Si vous réfléchissez un peu, vous vous dites qu'ils sont sortis. Mais c'est parce qu'en fait, pour héroïser un récit, il faut le passer à la voie active. Moi, j'aime bien les enfants qui nous renvoient... j'ai beaucoup travaillé dans ma carrière avec le corps enseignant, et ça a été d'ailleurs... très, très, très longtemps et encore aujourd'hui une source de plaisir, parce que les enseignants ou les enfants nous renvoient en reflet les mauvaises métaphores des scientifiques. Le gamin qui lève la main et qui dit « Mais vous nous dites que les poissons sont sortis de l'eau il y a 380 millions d'années, mais en même temps on nous apprend qu'ils sont adaptés à vivre dans l'eau. Qu'est-ce qu'ils sont allés? Pourquoi ils sont sortis ?» Alors il y a des dessinateurs, j'ai pas de PowerPoint, mais il y a des dessinateurs qui se sont attelés à cette question. Et il y en a un que j'aime bien, c'est Gary Larson, qui a beaucoup dessiné dans les laboratoires, et qui montre dans une mare du Dévonien deux poissons qui jouent au baseball. Et puis il y a évidemment, il y en a un qui a envoyé la balle sur la berge, alors il a fallu qu'il sorte pour aller chercher la balle, vous voyez. Il y a un autre dessin de Pichat, dessinateur français, dans les années 70, qui a montré l'arche de Noé. Mais Noé, il était bourré, il avait une bouteille de vin, il est là sur la bordure de la berge, il est bourré, et puis il met une planche vers l'arche, et puis il y a tous les poissons qui sortent de l'eau et qui rentrent dans l'arche, en fait. Donc qu'est-ce que les poissons sont allés faire hors de l'eau si on nous dit qu'ils sont adaptés à l'eau? En fait, évidemment que cette métaphore, elle est absurde. C'est l'eau qui se retire. Quand vous avez des milieux qui sont périodiquement asséchés, comme les deltas, par exemple, tropicaux, ou les fleuves tropicaux, aujourd'hui, on a une bonne image de ça sur les fleuves tropicaux d'Afrique centrale, d'Australie et d'Amérique du Sud. À la saison sèche, le fleuve, il est totalement asséché. Et puis, à la saison des pluies, le fleuve, il est en pleine eau. Et là, vous avez des milieux, d'une saison à l'autre, vous sélectionnez des organismes capables de résister à la sécheresse. Et de proche en proche, finalement, sur le long terme, de génération en génération, eh bien, on a des organismes ambivalents, multipotents, pluripotents au niveau des milieux dans lesquels ils vivent, et puis finissent par vivre complètement sur la terre ferme. Donc, vous voyez, c'est l'eau qui se retire. Et des eaux, ça ressemble un peu à l'ouverture de la mer Rouge. Donc, la sortie des eaux, c'est un abus de récit qui héroïse un lignage qui était le nôtre. Et pourquoi? Parce que ces tétrapodes, ils sont apparus en contrepoint des poissons. Mais les poissons, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un concept dont la géométrie ne correspond plus au cahier des charges des catégories d'aujourd'hui. Et donc, s'il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de sortie des eaux. Donc, les abus. Ce que votre question nous ramène au point que je souligne, parce que c'est le point principal, nos catégories sur le réel conditionnent évidemment le récit que nous allons produire sur le réel. Et les bêtises qu'on va dire aussi, bien sûr. Ça, c'est. Voilà.
Merci. Je crois que vous avez sûrement plein de questions. Je ne sais pas s'il y a des micros qui circulent. Il y a des questions devant et oui. On va montrer votre voilà.
Bonjour et merci. Est-ce que la classification, c'est uniquement le travail sur le passé ou est-ce que c'est aussi essayer d'anticiper, on est dans un festival de science-fiction, est-ce que c'est aussi d'essayer d'anticiper les possibles évolutions? Vous parliez des pousses tout à l'heure, ça fait penser à Miss Poussette de Michel Serres. Est-ce que ça, c'est un travail que vous faites?
Ah, c'est une question très intéressante et c'est une question profonde parce que les sciences de l'évolution intègre complètement, on l'a dit, le changement. Mais ce changement, il se produit dans toutes les directions possibles. En fait, grosso modo, la physique et la chimie ne demandent pas... les éléments de la chimie et de la physique... de la chimie et de la physique ne demandent pas l'autorisation à l'être vivant pour produire du changement. Ça change dans toutes les directions. Et les êtres vivants se retrouvent, eux, contraints par les changements ou par les lois de la physique et de la chimie, bien sûr. Il y a un champ des possibles. Ce champ, il est canalisé selon ces lois. Mais néanmoins, ce qu'un être vivant va subir comme changement ne lui est pas nécessairement favorable en termes de nombre de petits que je vais laisser à la génération suivante. Ce nombre de petits, il va être trié par les conditions de l'environnement, car l'environnement lui-même change aussi. Et donc, allez, s'il fallait catégoriser les formes de hasard, en évolution, il y a deux grandes formes de hasard. Il y a le fait que ce que l'être vivant subit comme changement ne lui est pas forcément favorable. Il peut lui être neutre aussi. Il peut lui être favorable de temps en temps, bien sûr, en termes de nombre de petits potentiels. Et le fait d'être favorable ou défavorable, ça dépend des canalisations physico-chimiques, mais ça dépend aussi de l'environnement autour qui va trier dans les populations justement ce foisonnement de variations. Et si j'ai dit que l'environnement change et qu'il est en même temps l'opérateur du tri, tout de suite, j'en viens à cette conclusion que je ne peux pas prévoir l'évolution dans le détail, parce que dans le détail, je ne sais pas de quoi demain l'environnement sera fait. Mais néanmoins, alors ça c'est pour la petite échelle, qu'est-ce qui va se passer dans 100 000 ans ou dans 200 000 ans. Mais sur la grande échelle, à très grande échelle, il y a quand même des régularités. On sait à peu près comment le vivant réagit, en imaginant que dans le milieu, il peut se passer ça ou ça. Alors évidemment, il faut imaginer que dans le milieu, il va se passer ça ou ça. Alors on peut dire, il y a des régularités, le vivant, il y a de bonnes chances qu'il fasse ça. Mais franchement, la marge d'erreur, elle est énorme. On peut faire l'évolution biologique s'expérimente au laboratoire. Et là, on peut faire des prédictions. Mais pourquoi on fait des prédictions? Parce qu'en laboratoire, vous contrôlez les conditions de l'environnement. Même si la variation, vous ne la contrôlez pas, les combinaisons chanceuses parmi les individus qui sont là, dans une cage à population de drosophiles, de petites mouches, ou dans une boîte de pétri de bactéries, les combinaisons chanceuses, on sait à peu près lesquelles vont sortir, quand vous contrôlez, vous vissez bien les conditions d'environnement, vous contrôlez l'humidité, vous contrôlez la température, vous contrôlez la pression, vous contrôlez la source de nourriture. Quand vous contrôlez tout ça, vous arrivez à faire des prédictions. Mais dans le monde réel, là-dehors, demain, on ne sait pas de quoi le milieu sera fait. Et donc, je vais au fond de votre question, le rapport à la catégorie. On prévoit difficilement à grande échelle l'évolution, et donc on ne catégorise rien, que je sache, de ce qu'on a du mal à prévoir. Alors, il y a des jeux intellectuels qui sont faits. Vous trouverez certainement à la librairie le dernier livre de Jean-Sébastien Steyer. D'ailleurs, on en parlera, je suis bête, il y a une table ronde là-dessus.
Il y aura des tables rondes là-dessus,
c'est ça. Où on en parlera à cette table ronde, où justement, il y a un jeu d'imagination sur le jeu des possibles, qui n'est pas nouveau d'ailleurs. Dougal Dixon avait fait dans les années 80 The New Dinosaurs. Il avait imaginé, et si les dinosaures, ancienne version, n'avaient pas disparu, que seraient-ils devenus aujourd'hui? Donc là, il y a une uchronie, comme on dit, c'est-à-dire on va prendre un point de déviation dans le passé et on va re-raconter l'histoire qui se serait passée depuis ce point de déviation. Eh bien là, il le fait pour les dinosaures. Mais prenez ça pour un jeu imaginaire et artistique, avec un jeu des possibles, avec quelques petites régularités tirées des sciences, mais ça n'a pas la valeur de prédiction scientifiquement, fécond. c'est un jeu de l'esprit, on se fait plaisir, quoi.
On a une autre question.
Bonjour. Première chose, d'abord j'avais pensé une question, mais qui ressemblait un peu à celle du monsieur, sauf qu'elle s'appliquait plus précisément à l'homme, puisque les processus que vous décrivez sur l'évolution, c'est en rapport évidemment avec des processus de sélection naturelle, en rapport avec le milieu, et donc l'homme, façonnant le milieu à son avantage, sélectionnant ou empêchant certaines catégories de population de mourir et permettant à tout le monde de se reproduire. Enfin, je caricature bien évidemment, mais cet aspect-là, est-ce que vous y pensez de temps en temps, même si ça dépasse un peu la rigueur scientifique de votre travail ? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est en rapport avec la découverte qu'on vient de faire de l'oxygène sur la comète Chury. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Après ça, ça date d'hier ou de... Voilà.
Non, c'est trop frais pour moi.
Juste, est-ce que vous envisagez éventuellement des implications en termes d'hypothèses sur l'apparition de la vie ? Qu'est-ce que ça pourrait changer ou, enfin, évolutivement, je veux dire, voilà.
Alors, la question de l'homme... vous avez des insectes sociaux qui régulent très finement les paramètres physiques et chimiques de leur lieu d'habitat. Une termitière, la termitière est constituée de telle façon que l'humidité, la température et les gaz qui y règnent sont très finement contrôlés avec l'aide des champignons. Je ne rentre pas dans le détail, c'est très compliqué une termitière. Et là, on pourrait se dire, voilà une population d'insectes sociaux qui modifie lourdement les conditions de son environnement à son échelle. Et c'est vrai, à leur échelle, les termites vivent dans des conditions qui sont assez éloignées des conditions physiques de l'environnement dans lequel elles sont. C'est une image que je prends parce que tout est une question d'échelle. On a à l'intérieur de la termitière que les humains se sont constitués eux-mêmes, c'est-à-dire les conditions d'environnement qu'ils créent pour leur confort. On a l'impression qu'on va échapper à l'échelle de l'individu ou même d'un groupe d'individus à la sélection naturelle. Mais si vous changez d'échelle et que vous prenez l'humanité dans son ensemble, avec la surpopulation qu'elle est en train de manifester, à grande échelle, il n'y a aucune raison théorique pour dire que l'espèce humaine va échapper à la sélection. Surtout aujourd'hui où nous avons une conception de la sélection naturelle qu'on pourrait qualifier d'étendue. C'est-à-dire que... la sélection naturelle, ce n'est pas seulement l'élimination d'une partie des individus parce qu'ils n'ont pas la combinaison de caractères qui font qu'ils peuvent laisser plus de petits à la génération suivante. La sélection naturelle, ce n'est pas seulement l'élimination, c'est aussi la survie par l'entraide. Et ça, c'est déjà décrit chez Charles Darwin en 1871. C'est aussi la sélection que produisent nos symbiotes. On aura une table ronde sur la symbiose tout à l'heure. Il y a une intrication énorme des formes de vie entre elles, et donc il n'y a pas de raison de penser que l'humain échappe à la sélection. Localement, on a l'impression qu'on y échappe parce que nous sommes centrés sur nous-mêmes, mais à l'échelle du globe, elle continue à se produire. Et d'ailleurs, à force de pulluler, on va certainement, je vous le donne en mille, avoir une bonne épidémie qui va arriver, parce que ce qui se passe, mais ça c'est un grand schéma des êtres biologiques, hein. Lorsqu'ils pullulent, ils sont la ressource majoritaire de tout un tas de parasites possibles qui n'attendent que cette ressource-là pour pulluler à leur tour. Donc je ne vous parle pas de la peste noire de 1348, mais on pourrait très bien avoir, au cours de ce siècle, une épidémie majeure qu'on ne soupçonne même pas encore. Donc juste des scénarios catastrophes pour vous dire que nous manquons d'humilité quand nous pensons que nous échappons. Peurions à la sélection naturelle. Et enfin, sur la question de l'oxygène, c'est ça ?
L'origine de la vie.
L'origine de la vie. J'ai une vision qui n'est peut-être pas très orthodoxe, quoique elle soit bien discutée dans la littérature. J'ai tendance à me demander ce que c'est que la vie, en fait. Et je suis assez enclin à penser que cette forme de matière qui manifeste de la variation et qui est capable de manifester ce qui a changé à un alter ego, s'il y a variation et s'il y a transmission, de ce qui a varié, alors il peut y avoir sélection. Et là, c'est une nécessité théorique. Je ne définis pas la vie en termes d'objets, mais en termes de qu'est-ce qui, théoriquement, devrait former la catégorie vivant. Eh bien, j'ai tendance à penser que est vivant ce qui est sujet à sélection naturelle. Et si on admet cette vision-là de la vie, alors les protéines, la démonstration a été faite que des protéines globulaires, à leur seule échelle, peuvent varier de conformation et transmettre par contact leur conformation à une protéine de forme proche. Et donc, c'est la conformation tridimensionnelle de la protéine qui fait l'objet de la transmission. Et là, on a un tout début de ce qu'on appellerait la sélection naturelle chez les protéines. Alors, dans des cadres assez contraints, mais ça me fait dire que la vie est apparue, si on est d'accord là-dessus, la vie est apparue avant les cellules. Vous savez, on a appris à l'école le schéma de la cellule. Hein. Le vivant commence à la cellule. C'est un espace intérieur contrôlé, séparé de l'espace extérieur, dans lequel je maîtrise le flux d'énergie et de matière. Et puis, je peux me diviser et transmettre, etc. Ça, ce sont des schémas très collés, très, très calés sur ce que nous sommes nous-mêmes. Mais si on théorise un peu, si on catégorise un peu plus, eh bien, voilà, la vie serait peut-être du côté des protéines. Alors, je ne sais pas si cette information que je n'ai pas eue sur la découverte de l'oxygène à l'endroit où vous dites, ça peut servir de ressource. En tout cas, les protéines, elles ont de l'oxygène, bien sûr, dans leur composition, mais à l'échelle où on est, il n'y a pas d'exploitation de l'oxygène en tant que molécule pourvoyeuse d'électrons dans un phénomène biochimique qu'on appelle la respiration. Donc, pour moi, la question est un peu... ne se pose pas, en tout cas, pas en ces termes. Voilà.
On a encore le temps pour une question, si vous le souhaitez.
Bon, désolé. Oui, ce qui m'intrigue, moi, c'est les 900 cm3 qu'on a en plus au niveau cerveau par rapport aux primates non humains. Je sais pas, j'ai lu des versions diverses de cette origine-là, mais vous en avez sûrement des choses plus précises. Et ce qui m'intrigue, donc, c'est la cohabitation entre les zones, disons, les plus cognitives et puis les plus arriérées dans le cerveau. Enfin, je sais pas si on peut parler toujours de cerveau primitif, reptilien, je sais pas. Enfin, vous allez réactualiser le problème. Et ce conflit-là, quand même, n'est pas toujours évident à vivre, sauf pour certains tortionnaires qui arrivent à faire cohabiter la subtilité la plus grande dans les tortures, mais chez tout individu normalement constitué comme dans cette salle, la cohabitation, quand même, n'est pas toujours évidente, quoi. Voilà.
C'est juste... ce que vous dites me permet de pointer quelque chose qui est souvent passé sous silence, c'est la richesse de la notion de sélection naturelle. C'est-à-dire que pour savoir ce qui est sujet à sélection, il faut se demander quelle est la propriété qui, lorsqu'elle survient, permet à son porteur de laisser plus de petits à la génération suivante. Et donc, rétrospectivement, lorsque ces générations ont eu lieu, la caractéristique, on la voit comme majoritaire dans la population et on a l'impression que le monde est bien fait. Oui, évidemment, ce qu'on appelle la fonction, ce qu'on appelle l'avantage, c'est la condition de performance qui font que les individus qui sont nés jadis ont réussi à survivre. Ceux qui se sont éteints, ils ne sont pas là pour qu'on en parle. Et donc, il y a cette inversion par rapport à notre psychisme qui voudrait que le monde soit fait comme pour se manifester tel qu'il se manifeste à nous. La sélection naturelle dit le contraire. Elle dit vous n'avez que le produit d'un phénomène de tri, finalement. Et bien, dans ces phénomènes de tri, il y a deux... La compétition pour la ressource vis-à-vis d'un alter ego, l'aptitude à capter plus de ressources que son voisin, est une aptitude qui va se retrouver, si elle est transmissible, bien sûr, elle va se retrouver maintenue dans le lignage généalogique. Mais la capacité à cohabiter, à collaborer avec son voisin, la capacité même d'empathie, elle va aussi être... sélectionné parce que on est plus fort en groupe. Enfin, je vous le fais court. L'union fait la force. On est plus fort en groupe pour capter des ressources qu'on ne l'est si c'est chacun pour soi. Et donc, ça dépend des espèces, ici ou là. C'est tantôt une tendance qui a pris le dessus, tantôt dans d'autres espèces l'autre tendance qui a pris le dessus. Parfois même les deux tendances dans une seule espèce. Les hyènes, par exemple, dans la savane africaine, au moment de la chasse, elles sont coordonnées, elles sont collaboratives. Et au moment de la bouffe, elles sont compétitives. À un quart d'heure de distance, elles ont les deux comportements. Et quand je vous dis qu'elles sont compétitives, elles se mordent les unes les autres s'il y en a une qui veut bouffer avant la femelle alpha. Et les humains, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a effectivement cette double capacité sélectivement obtenue, à la fois de se faire la compétition entre nous, et même parfois meurtrière, et la coopération la plus admirable, la plus utile à tous. Nos sociétés sont le produit de cette double tendance naturelle. Quant aux 900 centimètres cubes, on a parlé d'exaptation tout à l'heure. Ces 900 centimètres cubes de plus, oui, effectivement, il y a 3,5 millions d'années, 500 centimètres cubes chez l'adulte d'un australopithèque. Il y a moins d'un million d'années, on atteint, il y a un peu moins d'un million d'années, on atteint les 1400 centimètres cubes, effectivement. On peut faire plein de choses avec ça, et il y a ce qu'on appelle du recrutement. Ce cerveau, il y a pas mal de théories différentes qui essayent de comprendre pourquoi il y a ce développement de l'encéphale chez l'humain. En tout cas, il est utilisé à une gamme de fins, mais pas plus, j'ai envie de dire, pas plus que n'importe quel autre organe. C'est-à-dire qu'en fait, rien n'empêche... Ce que vous enseigne les sciences de l'évolution, c'est tellement beau de regarder la diversité des organismes et de ce qu'ils font avec leurs organes. La diversité des fonctions qui sont obtenues à partir d'une structure, elle est énorme. On ne s'en doute pas, parce que nous, on est rivés sur nous-mêmes. On se dit, une main, c'est forcément fait pour attraper. Des pieds, c'est forcément fait pour marcher, et etc., etc. Eh bien, quand on regarde la diversité du vivant, on s'aperçoit que y a énormément de fonctions qui sont recrutées derrière une structure déjà disponible. Et donc... L'exemple, monsieur, que vous citez, malheureusement, le torsionnaire, il a recruté une partie de son cerveau pour faire des choses qui le mettent dans une ambivalence par rapport à des forces sélectives qui, de toute façon, sont antagoniques les unes des autres. La sélection naturelle, elle est multiforme et elle produit des compromis. Elle ne produit jamais des perfections. Elle ne produit que des compromis. Alors, des histoires de compromis, il y en a plein. J'en citerai juste une pour que vous arriviez à mettre le doigt dessus. Il y a des moments où on sélectionne un truc, c'est bon à ce moment-là. Et puis, il arrive un moment dans l'histoire où c'est plus bon. Mesdames, vous accoucherez toujours dans la douleur. Vous accoucherez dans la douleur. Et ça, c'est le fruit de deux forces sélectives qui se sont exprimées à deux moments différents. Il y a moins 4 millions d'années, dans notre lignage, les humains se redressent. Le bassin devient évasé en partie supérieure, plus étriqué en partie inférieure. L'ouverture par le pubis a un diamètre qui ne peut pas aller au-delà d'une certaine valeur. Parce que le bassin porte le poids du tronc, des membres et de la tête. Mais pour les australopithèques, c'est pas grave, parce qu'ils n'ont pas plus de 500 cm3 de volume cérébral au stade adulte, donc la tête est petite, tout va bien, ils accouchent pas plus difficilement que les chats ou les chiens. Mais par contre, il y a moins un million d'années, il y a une deuxième pression sélective qui se met en place et qui n'a pas cherché à se coordonner avec la précédente. Les sélections naturelles successives, elles ne se coordonnent pas entre elles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes une des espèces de mammifères pour laquelle l'accouchement, la parturition, on dit, coûte le plus cher aux mères. On meurt aujourd'hui 100 fois plus. Non, pardon, 100 fois moins. En France, si on prend la France, on meurt 100 fois moins. Une femme meurt 100 fois moins de son accouchement aujourd'hui en France qu'elle n'en mourait, il n'y a ne serait-ce que le milieu du XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle et avant, chaque accouchement était une vraie prise de risque pour chaque maman. Et puis, il y a des différences entre les continents aujourd'hui qui sont énormes. Il y a des endroits du monde où, évidemment, le niveau de médicalisation de l'accouchement n'est pas celui qu'on connaît ici. Et les femmes meurent beaucoup plus de leur accouchement. Mais ça n'arrive. Ces taux de mortalité périnataux ne sont pas du tout ceux qu'on trouve chez chats, chiens, autres mammifères. Donc voilà cette idée de compromis. Il y a des moments de l'histoire où il y a des caractères qui se mettent en place. C'est bon à un moment donné, ça l'est plus à un autre. Et on vit avec ces accidents de l'histoire, en fait.
Voilà, on va s'arrêter là. Vous retrouverez Guillaume Lecointre, je crois, cet après-midi, à quelle heure
Signature à 15h, là, tout de suite.
Voilà, tout
et
de
puis
suite.
À 17h, sur la symbiose.
Voilà. Bonne journée.